À table.
Jean-Paul Rocher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éditeur et vous êtes actuellement en résidence au restaurant des Grandes Tables de la Friche, une résidence au long cours puisqu'elle va se dérouler jusqu'à la fin du mois de juillet. Une résidence au cours de laquelle vous allez nous faire rencontrer quelques-uns de vos auteurs, quelques-uns aussi de vos amis. Avant d'aborder votre travail d'éditeur, votre maison, j'aimerais qu'on évoque en quelques mots votre parcours, un parcours assez singulier qui a commencé dans le sport et de haute lutte pour se continuer dans la cuisine, la gastronomie, avant l'édition. Alors peut-être quelques mots sur ce démarrage en force avec la lutte et je crois le lancer de poids aussi.
En dehors du lancer de poids, bah écoutez, j'ai très vite... J'ai très vite commencé à m'intéresser à la librairie, aux livres anciens, etc. Enfin, c'était l'époque, hein, on s'intéressait un peu à tout et puis tout était permis. C'était après 68. Enfin, tout n'était pas permis, mais voilà quoi, le monde était à nous. Paris était à nous, parce que je suis quand même parisien, il faut le rappeler, aux Marseillais. Mais un parisien de la banlieue, quoi. Voilà. J'ai commencé à travailler dans une librairie de livres anciens avec un vieil allemand réfugié, un anarchiste allemand qui s'était réfugié en France en 38 pour être peinard, mais malheureusement en 40, ces frangins l'ont rattrapé. Enfin, les Allemands sont arrivés. Enfin, toujours est-il que j'ai appris le métier avec lui à partir de 76. J'ai travaillé dans une librairie qui s'appelait La Guilde. Et puis là, j'ai découvert tout un monde. On était spécialisé dans les sciences sociales. Moi, évidemment, j'étais marqué par 68 et puis tout un engagement. Mais là, j'ai découvert le mouvement ouvrier, les sciences sociales du 17e siècle à l'époque contemporaine, quoi. Et puis l'art moderne, avec les lettristes, etc., les situationnistes aussi. Et puis tout un tas de choses. Et aussi la gastronomie. Je commençais à m'intéresser à la gastronomie pour tout un tas de raisons. J'aime bien manger, j'ai été élevé par ma grand-mère, mon grand-père faisait le jardin. J'ai l'amour des bons produits depuis ce temps-là, quoi. Enfin, c'est même pas l'amour, c'est une évidence, quoi. Je peux pas manger autre chose. C'est pour ça que je suis très malheureux parfois. En tout cas, je mange que des produits de saison. Voilà.
Un passage donc dans une librairie auprès des livres anciens, ça explique peut-être d'une certaine manière la façon dont vous éditez aujourd'hui des livres. On est très loin de ces livres de cuisine traditionnels avec jaquettes en quadrille et de très nombreuses photos plus que du texte. Là, il y a une qualité de papier, il y a une qualité de typographie. Il y a une espèce de refus justement de ce côté un peu album tout en couleur.
Oui, non, mais ça c'est le parti pris des éditeurs qui font des livres de cuisine parce que c'est un créneau extraordinaire. Ils sont publiés au moins 2-3 000 par an en France, dans le monde, en Europe ou aux États-Unis, c'est pareil. C'est toujours un peu les mêmes livres, les mêmes recettes depuis 40 ans. Bon, alors il y a un maquettiste qui fait une maquette différente. Il y a des photos en couleur, des grandes pages, des photos floues. On joue sur ça, mais ça n'a aucun intérêt. Il y a parfois des livres de chefs ou des livres qui peuvent être intéressants, mais je sais pas, je pense à des gars comme Michel Braque. Bon, là, ça peut être des beaux livres et puis ça peut apporter quelque chose, mais moi, c'est pas du tout mon point de vue. Parfois, s'il est nécessaire, je peux mettre des photos ou je peux l'illustrer, mais il faut que ça apporte quelque chose. Si c'est simplement pour emballer l'objet ou... Pour le rendre attrayant, ça m'intéresse pas. Il faut que ça ait du sens, c'est tout. C'est un point de vue. Pour moi, ça, c'est une démarche tout à fait normale, quoi. Je vais pas vendre des salades emballées, voilà. Donc si je vends une salade, ce sera la salade et on mangera la salade.
Au catalogue de Jean-Paul Rocher, éditeur, on trouve bien sûr des livres consacrés à la gastronomie et au vin. On va revenir tout à l'heure sur la question du vin. Mais on y trouve aussi des essais, on y trouve aussi de la littérature. Plutôt qu'une ligne éditoriale qui ressemble à une ligne de marketing, on a plutôt l'impression que ce sont des coups de cœur, qu'il y a de réelles amitiés au travers de cette maison d'édition.
Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'amitiés. Bah, les livres, ça me permet de rencontrer des gens et avec ces gens-là, qui deviennent souvent des amis, des projets naissent. Et puis voilà, c'est parfois c'est aléatoire. Ce sont toujours des aventures, souvent belles, rarement décevantes. Et même si on ne gagne pas beaucoup d'argent, de ce point de vue-là, humainement, c'est satisfaisant. Ça devrait être surtout ça l'édition. En tout cas, c'était comme ça autrefois. Il y a encore 20-25 ans, c'était plutôt ça l'édition. Mais maintenant, là, je ne sais même pas si les grosses maisons d'édition font encore de l'édition. Bon, ils peuvent publier des bons livres, mais c'est un autre monde. Les petits éditeurs, on se débrouille comme on peut, mais c'est très difficile. Alors moi je publie des choses très différentes, pas que des livres de cuisine ou des livres sur le vin, des romans, des études, et comme vous le disiez à l'instant, mais c'est très difficile. Voilà, les libraires sont submergés, donc ils sont obligés de faire des choix, et puis souvent ils sont tenus de rendre des comptes aux gros distributeurs, nous on passe après.
Dans ce catalogue, et justement à propos des essais qu'on peut y trouver, j'ai remarqué des publications autour de Louise Michel, autour de Cesare Battisti, une publication aussi assez complète, plusieurs ouvrages sur le mouvement lettriste, Isidore Isou. On sait que Isidore Isou a été un des grands inspirateurs de Guy Debord. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure avec votre passé 68ard. Il y a aussi une forme d'engagement, l'engagement politique dans ce choix éditorial.
Pas tellement un engagement. Enfin, pour moi, l'engagement, il est total et permanent. Faire de l'édition aujourd'hui, la manière dont je me suis justement engagé dans cette voie, c'est un engagement total. C'est vraiment défendre le livre et puis voilà quoi. Ça fait partie de ma vie, c'est consubstantiel à mon existence. Donc, je ne peux pas faire autrement. Et évidemment, je publie plutôt Louise Michel, j'ai publié un petit texte, Prise de possession. Je ne suis pas un spécialiste non plus des écrits anarchistes, mais je publie les gens qui m'ont impressionné ou qui m'ont façonné quand j'étais plus jeune. Ça fait partie du monde dans lequel je vis, j'imagine, ou je rêve. Enfin, c'est une utopie permanente.
Beuveurs infatigables et vous vérolez très précieux. Pendant quête de loisirs et que n'est autre plus urgent à faire en main, je vous demande en demandant pourquoi est-ce qu'on dit maintenant en commun proverbe « Le monde n'est plus fat ». Fat est un vocable qui signifie non salé, sans sel, insipide, fade. Par métaphore signifie folle, niais, dépourvue de sens et vantée de cerveau. Voudriez-vous dire comme de fait on peut logiquement inférer que par ci-devant le monde eût été fou, maintenant serait devenu sage? Par quantes et quelles conditions était-il fou? Quantes et quelles conditions étaient requises à le faire sage? Pourquoi était-il fou? Pourquoi serait-il sage? En quoi connaissez-vous la folie antique? En quoi connaissez-vous la sagesse présente? Qui le fit fou? Qui l'a fait sage? Le nombre desquels est plus grand ou de ceux qu'il aimait fou ou de ceux qu'il aimait sage? Dont procédait la folie antécédente, dont procède la sagesse subséquente. Pourquoi en ce temps non plus tard prend fin l'antique folie? Pourquoi en ce temps non plus tôt commença la sagesse présente? Quel mal nous était de la folie précédente ?
Autre aspect intéressant de vos publications, c'est le lien que vous établissez volontiers entre la cuisine, la gastronomie, et puis la science, les sciences, aussi bien les sciences sociales que les sciences exactes. Deux exemples me viennent à l'esprit, le travail de Christian Boudan sur la géopolitique du goût, un travail donc au confluent de la cuisine et des sciences sociales, de l'anthropologie, et puis aussi un ouvrage sur la chimie du vin, si on peut dire, de Jules Chauvet, qui est, je crois, le père de l'œnologie moderne. Donc une volonté de faire se rejoindre l'hédonisme avec la rigueur.
Oui, parce que parfois, la science bien comprise, ou en tout cas la science avec conscience, à la disposition de l'homme, ça n'a plus rien à voir avec la science dominatrice qui répond à tout et qui nous impose sa vision des choses. Et là, en l'occurrence, Jules Chauvet, dans le monde du vin, est très intéressant et emblématique. C'est-à-dire qu'il n'a jamais voulu s'imposer ou, comment on pourrait dire, imposer une science à la vigne. Il s'est mis à l'écoute de la nature et il a voulu répondre à des questions scientifiques sans assommer la nature, en travaillant avec la nature, donc en respectant la nature. Mettre à la disposition des vignerons des méthodes leur permettant de vinifier sans produits chimiques, c'est énorme. Parce que sinon, évidemment, l'œnologie moderne, correcte, comme j'ai l'habitude de dire, c'est très commode. On a tout un tas de moyens, avec la pharmacopée moderne, de rendre des jus de raisin infâmes à peu près buvables. Alors que le but, c'est pas ça, c'est plutôt de valoriser des jus de raisin sans les dénaturer. Voilà. Et ça, c'est l'œuvre de Jules Chauvet, entre autres. Parce que il n'est pas tant l'inventeur de l'œnologie moderne. Il y a eu quelques autres œnologues, en plus, qui sont plutôt mis à la disposition de l'industrie viticole ou agroalimentaire. Je pense à l'école bordelaise, par exemple. Bon, ils ont fait des choses remarquables. Pénaud a évidemment fait des choses intéressantes. Mais Chauvet, c'est un autre point de vue. C'est vraiment un point de vue très, très différent. Justement, se mettre au service de la nature.
Des auteurs donc avec une réflexion très pertinente, une certaine rigueur de regard sur la cuisine et la gastronomie. Pour autant, on a l'impression qu'à cet égard, vous ne souhaitez pas trop cette manière qu'ont certains chefs de se sentir toqués, et très toqués, de se prendre très au sérieux, de se pipoliser. Au contraire, la cuisine que vous aimez, les cuisiniers que vous aimez sont des gens qui sont extrêmement approchables, qui ont quelque chose qui est très humain dans leur approche de la cuisine et qui est très ouvert aussi. C'est quelque chose qui vous semble important, ça, de ne pas trop verser dans les défauts de la célébrité, du star system.
Ben oui, c'est important, parce que ceux qui se vautrent dans le star system, qu'on voit partout avec des grands chapeaux ou autre chose, ils sont là pour non plus faire de la cuisine, mais pour se vendre une image. Et quand on va manger chez eux, bon, on va dépenser 500 € par tête. Il faut justifier ces 500 €. Donc on les a pas dans l'assiette, mais on les a ailleurs. Donc ils se valorisent à travers les médias comme tous les autres, que ce soit en politique ou ailleurs. Donc il faut jouer là-dessus. Alors que les cuisiniers que je fréquente sont accessibles, parce que d'abord moi je peux pas mettre 500 € dans les repas, mais ceci dit, oui, ils sont sympathiques, ils sont disponibles. Pour eux, la cuisine, c'est souvent un sacerdoce et un amour de l'autre et des autres. C'est une manière de manifester enfin, c'est une manière d'exprimer son talent et puis de montrer qu'on peut à travers ça on est reconnaissant, quoi. Les cuisiniers cherchent évidemment la reconnaissance. Alors il y en a qui la recherchent d'une manière complètement folle, et ce dont je parlais au début, mais ceux que j'aime bien, bah, eux, c'est le contact direct avec les gens, les petits compliments, la fidélité, enfin des choses comme ça. puis des gens qui travaillent très bien, pas cher, qui ont le respect du produit. Tout ça, ça participe d'une certaine éthique, souvent. Donc, ces gens-là ne sont pas obsédés par l'argent. Ils sont plutôt possédés par leur métier. Voilà.
Corollaire de ce star system qu'on évoquait, certains cuisiniers très toqués donc s'arrogent le droit de juger les autres. On a les Bocuse d'Or, par exemple, qui se donnent pour principe de juger la profession. On a bien sûr les guides, les célèbres guides Michelin, qui jugent les restaurants selon des critères qui ne sont pas toujours liés uniquement à ce que l'on trouve dans l'assiette, comme vous l'expliquiez, mais aussi au décor, un côté un peu embourgeoisé. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité aujourd'hui d'une alternative, c'est-à-dire que quelque chose puisse indiquer aux clients, aux consommateurs, quels sont les bons restaurants, les bons bistrots, où on peut manger très bien, rencontrer une cuisine innovante et sans forcément se ruiner?
Oui, mais ça existe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tout un courant de jeunes cuisiniers. D'ailleurs, il y a des gens qui s'en occupent, qu'on va appeler ça la jeune cuisine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas privilégier forcément les 3 étoiles ou les 3 macarons Michelin ou des choses comme ça. Ça n'a plus de sens. Le regard gastronomique est transversal, c'est-à-dire qu'on peut très bien manger dans un petit bistrot quelque chose de très bon, avec un bon vin, un vin naturel, entre parenthèses. Entre parenthèses, d'ailleurs, moi je choisis plutôt, mon critère c'est plutôt les vins quand je vais dans un restaurant. Maintenant, s'il n'y a pas de vin, de vin dit naturel, ça m'intéresse moins, même si la cuisine est excellente. Bon, ou alors c'est quand même dommage de boire de l'eau dans un bon restaurant, mais parfois il n'y a pas de vin à boire, donc j'y vais pas. Mais aujourd'hui, oui, on peut très bien, en fonction de son humeur, de l'ambiance, etc., du lieu où on est, on peut manger à peu près bien partout, mais il faut que ça corresponde au moment. Après, les étoiles, tout le reste, ça n'a plus de sens, à mon avis. On peut manger quelque chose de sublime dans un boui-boui, et puis voilà, si on est bien disposé, ce sera parfait. Et puis bon, bah voilà, on peut aller dans un 3 macarons, même invité, etc., et puis mal bouffer. Moi, ça m'est arrivé, je sais pas. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens.
Les vins, effectivement, une grande passion pour vous, les vins naturels particulièrement. Les circuits de distribution de ces vins naturels ne sont pas forcément évidents à rencontrer. Encore dans les grandes villes, on peut trouver quelques cavistes qui en sont fournis, et encore, difficilement. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté de distribution de ces vins? Ou plutôt, est-ce que ça n'est pas un comportement du consommateur qui est à changer et de retrouver la possibilité d'aller aujourd'hui à la coopérative, à la source, directement rencontrer les vignerons, les viticulteurs, au fond, se passer de ces intermédiaires qui sont très très gênants dans le domaine de la grande distribution et j'imagine aussi dans le domaine de la distribution du vin?
Oui, tout ça est vrai, mais au départ, on ne peut pas en trouver partout parce que de toute façon, il n'y en a pas beaucoup des vignerons qui font du vin naturel. Moi, j'ai fait un guide, il y a eu deux éditions, mais en étant large, on en a dénombré 300, 350, mais si on avait été vraiment plus strict, on n'en dépassait pas la centaine. Donc après, on ne peut pas les trouver partout. Et puis, mais sinon, il y a vraiment, moi je vois bien, il y a tout un tas de jeunes vignerons qui commencent à s'intéresser, à envisager de s'engager dans ce domaine, parce que c'est vraiment une alternative intéressante. Le métier est passionnant quand on travaille de cette manière-là. Et les cavistes, c'est pareil, ça progresse. Moi, à Marseille, il y a la Part des Anges. Il y en a peut-être d'autres qui ont quelques références, mais bon, en l'occurrence, sans vouloir leur faire de la publicité, il y a la Part des Anges, quoi, et puis c'est tout. Donc à Paris, il y en a beaucoup plus. Paris, c'est quand même le... On peut peut-être le regretter, mais c'est vraiment la ville qui a inventé le vin naturel. Voilà, avec les vignerons depuis maintenant, ça fait presque une vingtaine d'années. Mais ça progresse. Et d'ailleurs, vous verrez qu'à l'occasion du petit salon qu'on va organiser à la Friche, il y en aura une dizaine, une douzaine, il y aura aussi d'ailleurs la Part des Anges, ils présenteront des vins dans cet esprit-là, et c'est vraiment, ça décoiffe, quoi. On est dans un autre monde, c'est plus les vins stéréotypés, standardisés, bon, on s'en fout de ça, cher ou pas cher, non. Et là c'est pareil, c'est plus une question de prix, c'est une question de goût. Voilà, alors le goût, ça s'acquiert, mais ça vaut la peine, c'est vraiment une alternative. Et comme on en parlait hier soir, le vin, c'est pas simplement du vin. Voilà, c'est tout un monde. Tout un monde où on retrouve le monde, toutes les contradictions du monde.
Quel bien nous est de la sagesse succédante ? Comment serait la folie antique abolie ? Comment serait la sagesse présente rétablie ? Répondez si bon vous semble. Faites confession à Herr der Tiflet, ennemi de paradis, ennemi de vérité. Si êtes des miens, buvez 3 ou 5 fois, puis répondez à ma demande. Car je vous jure, mon grand Tuluberlu, que si autrement ne m'aidez à la solution du problème susdit, je me repens vous l'avoir proposé. Pourtant, vous semez pareil à Strif, comme si le loup tenait par les oreilles, sans espoir de secours.
Un développement des vins naturels qui correspond aussi au changement du goût du consommateur, à une évolution, plutôt que des vins très épais, très tanniques. On va aujourd'hui beaucoup plus volontiers vers des vins rouges très légers, qu'on boit frais, qu'on met au frigo l'été. C'est aussi un changement d'habitude, un changement de goût.
Oui, mais le problème avec le réchauffement climatique, c'est que les vins sont malheureusement de plus en plus forts, pas simplement dans le sud, même dans le Beaujolais maintenant, parfois on a des vins à 14 degrés ou dans les vins de Loire. Donc là, c'est une autre question, mais il y a des vins du sud, tanniques, qui sont naturels et qui sont très bons, hein, même qui sont très frais en bouche, comme ça, même s'ils font 13 degrés ou 14, parce que ils sont, quand il n'y a pas de soufre, beaucoup plus digeste. Ça dépend évidemment de la manière de vinifier, mais quand on vinifie avec la macération carbonique inventée par Jules Chauvet, on fait exploser le fruit. Là, vous avez des fruits en bouche, etc., qui sont magnifiques. Et ça, c'est une vinification beaujolaise qui peut s'appliquer à des vins du Sud. Pas toujours, mais ça peut être très intéressant. Quand on a, par exemple, des vins des côtes d'Auvergne sans soufre, à 9,5 degrés, 10 degrés, c'est merveilleux, quoi, parce que frais comme ça, l'été... on boit ça comme de l'eau, quoi. Et c'est meilleur que l'eau.
À consommer avec modération quand même. Parlons un peu de l'aspect économique de votre travail. La maison d'édition Jean-Paul Rocher éditeur est une petite maison, c'est un travail artisanal. J'imagine que ça n'est pas simple aujourd'hui pour une maison d'édition de vivre et de survivre dans un contexte difficile.
Oui, non, c'est pas simple. Ça n'a jamais été simple, mais bon, voilà, c'est... C'est le pari, il faut continuer sans état d'âme. Voilà, il faut se débrouiller plus ou moins bien, mais il n'y a pas d'autre solution. Parce que la distribution est très difficile, les libraires souvent, bon, ils ne comprennent pas trop, ils sont un peu désorientés. Il leur faut quand même des choses faciles, quoi, des maquettes attrayantes avec des photos, des choses comme ça. Et puis ils n'ont même plus le temps de lire non plus, donc... puis alors, parler du vin naturel, on n'en parle même pas, parce que je m'occupe de ça depuis plus de 10 ans, mais il n'y en a pas encore un qui a compris. Donc ils préfèrent vendre le parker, le guide achète, ça se pose devant la caisse, et puis ça part tout seul. Mais bon, non, s'occuper des petits éditeurs, ça suppose un vrai travail, mais c'est pas de leur faute. Il y en a quelques-uns qui le font, mais... Ils sont pris dans le système, c'est très difficile pour eux aussi. On est tous pris dans un truc qui est vraiment très difficile. Et puis comme on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de faire des réunions, on n'a pas le temps de se voir. Parfois on peut causer un petit peu, mais c'est très hasardeux. Et puis ça supposerait un vrai travail, des structures syndicales, etc., efficaces. Mais les syndicats, bon, moi je connais même pas les gens du syndicat de l'édition, ils s'occupent pas de moi, ils s'occupent des gros, ils vont s'occuper de chez... Mais bon, voilà, puis moi, j'ai jamais recours aux subventions, donc voilà, je réclame rien, mais je fais mon boulot, et puis voilà, si je dois me casser la gueule un jour, je me casserai la gueule, mais pour le moment, je continue... contre vents et marées.
À propos de vents et marées, justement, vous êtes à Marseille. Enfin, à Marseille, il n'y a pas beaucoup de marées, mais il y a souvent un peu de vent, comme aujourd'hui d'ailleurs. Quel regard vous portez sur cette ville que vous découvrez? J'imagine que vous résidez à Paris, à la fois du point de vue du point de vue de la ville, de ses habitants, et puis peut-être éventuellement de ce qu'on peut y manger, de ce qu'on peut y boire.
Je connais un petit peu, mais c'est vrai que je découvre. Et je trouve que c'est une ville magnifique. Il y a quelques verrues urbanistiques, mais c'est magnifique. Et puis aujourd'hui, il fait beau. Enfin, il y avait ce matin les fleurs là sur le quai là, du vieux port. Puis moi, j'adore évidemment le poisson. Et donc ça, c'est une merveille pour moi de voir les petits pêcheurs là. Puis ce mélange des populations. Alors là, c'est absolument super. J'aime beaucoup. Voilà.
Philippe de la Courcelle vient nous rejoindre à l'occasion, juste le temps de nous dire bonjour. Bonjour Philippe.
Bonjour.
On va, pour conclure cet entretien, donner quelques renseignements pratiques sur votre maison d'édition, peut-être le site internet sur lequel on peut trouver le catalogue complet de vos publications.
Oui, il y a à peu près tout ce qui est disponible. Il y a peut-être quelques bouquins épuisés, mais sont sur le site. Ouais, mon site, c'est www.jprocher-éditeur.com. Donc là, on peut tout trouver, l'adresse, etc., le fax. On peut me commander. Puis je suis distribué par les Belles Lettres pour les libraires. Diffusion, distribution, les Belles Lettres.
Et sinon, je pense que les grandes tables de la Friche tiendront à disposition de ceux qui le souhaitent un certain nombre d'ouvrages qui font partie de cette maison d'édition. Donc si par hasard on ne les trouvait pas chez son libraire favori, on pourrait les trouver là. Merci beaucoup Jean-Paul Rocher.
Merci à vous et bonne journée.